ça ira, ça ira, ça ira. Chez Citroën, nous on ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Nous, ce qu'on veut, c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon,
canon, canon, canon,
sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 janvier dans le réseau d'agents participants.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
On n'est jamais dans la bonne case.
Non.
Parce qu'il y a des cases, c'est ça le problème. C'est qu'on nous range dans des cases et on ne peut pas.
Absolument.
Il n'y a pas des demi-cases. C'est tout le problème.
Et ça, je pense que ça a été ce qui m'a éprouvé le plus dans toute ma vie.
Parce que voilà, comment vous l'avez continué votre vie ? Donc vos parents fiers de vous, j'imagine ? Vous passez vos bacs, vous continuez vos études ?
N'ont pas ont eu une énergie comme votre maman, mais n'ont pas exercé cette énergie de la même façon. Ils m'ont petit à petit laissé me débrouiller toute seule. C'est-à-dire que pendant les deux premières années, maman était toujours là pour que je lui donne le bras. Et puis petit à petit, ils ont observé que je n'avais pas de problème avec les trottoirs, pas de problème avec les escaliers. Je continuais à voir les feux rouges. Et là, j'en viens aussi à l'expression des médecins. Quand j'avais 15 ans, j'ai dû rencontrer un grand professeur en ophtalmologie qui, après m'avoir fait lire sur le fameux tableau à tant de distance, les lettres de grosseurs différentes, m'a dit « Mademoiselle, vous avez moins d'un dixième. » Alors, dans ma naïveté et ma confiance dans l'adulte, je lui ai dit « Mais docteur, je vois les étoiles dans le ciel. » Et c'était vrai, parce que je vois beaucoup par contraste.
Ben oui. C'est joli,
et il m'a répondu cette phrase qui est gravée dans mon cerveau. Mademoiselle, vous ne devriez pas les voir.
Ça voulait dire quoi ?
Eh ben, ça voulait dire qu'il était assis sur ses certitudes que quand on a moins d'un dixième, on ne peut pas voir les étoiles dans le ciel.
Et oui, c'est ce que disait ma maman. Les médecins font ce qu'ils peuvent.
Parce que ça m'a marqué pour toute la vie. J'ai dit, mais alors il me prend pour une menteuse.
Ça ne vous a, pas empêché, ça ne vous a pas empêché de continuer. Mais vous aviez une canne blanche pour vous déplacer?
Non, pas du tout. J'ai la canne blanche depuis 6 ans seulement.
D'accord. Et avant 6 ans, donc jusqu'à pendant 70 ans quasiment, vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu besoin.
Non, j'ai pratiquement vécu comme tout le monde. J'ai élevé mes 4 enfants. Pratiquement toute seule à longueur de semaine parce que mon mari voyageait beaucoup pour son travail. Et j'ai adoré avoir cette responsabilité pleine et entière.
Et comment faisaient vos enfants quand ils se sont aperçus, quand ils ont grandi, quand ils ont vu qu'en fait vous aviez cette déficience?
Je n'ai pas eu de problème marquant au quotidien parce que très vite, je leur ai dit que quand je les emmenais dans un jardin, qu'il ne fallait pas qu'ils partent trop loin de moi, parce qu'après, je ne les voyais plus.
Ils ont intégré très vite cette difficulté.
Oui, oui.
Et comment vous avez rencontré l'amour ? Parce que là, on est passé à 4 enfants d'un coup, on était à 15 ans, à 15 ans, on était aux 2 bacs que vous avez passés avec un professeur, et là, oups, 4 enfants plus tard, et un mari qui voyage. Mais attendez, comment vous avez rencontré l'amour ?
À la fac. Après mon bac, j'ai voulu aller en fac j'y suis restée 2 années, mais dans des directions différentes, parce qu'alors là, je me suis complètement vautrée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement.
Oui, c'était une fac de quel enseignement ?
C'était la fac de la rue d'Assas.
Oui, de droit alors, donc, d'accord.
J'ai fait une année de lettres qui à l'époque s'appelait... propédeutique. C'était comme une première année de licence.
D'accord.
Qui était sanctionnée par un examen. Et on n'avait que 3 matières qui avaient été choisies en début d'année. Et là, bon, ben, évidemment, comme le travail en fac est essentiellement un travail personnel dans les bibliothèques, eh ben, moi, je ne pouvais rien faire. Je n'avais que les polycopiés que j'arrivais à lire avec des lunettes loupe, donc avec lenteur, évidemment. Donc je n'ai pas du tout pu assumer le travail personnel qui était demandé, donc je n'ai pas eu d'examen. Et j'ai fait une première année de droit qui m'intéressait.
Ouais.
Et puis là, ben, c'est pareil, le droit, ben voilà, ce sont des livres et des livres à consulter.
Bien sûr.
Et ça, voilà. Les bibliothèques, donc pas, j'y avais pas droit.
Et vous avez rencontré donc votre mari,
à la fac.
Il faisait des études de quoi, de lettres ou de droit alors?
De droit.
D'accord. De droit. Quelle profession a-t-il embrassé alors?
Eh ben, il a très vite arrêté les études qu'il ne réussissait pas pour prendre succession de l'affaire de son père.
D'accord. Donc c'est comme ça que. Et alors lui, les difficultés, votre déficience visuelle ne l'a pas gêné
parce que je vivais comme les autres.
Donc d'accord.
Je ne pouvais pas, par exemple, lire le nom des rues, tout ça. Mais je prenais les transports que je continue à prendre d'ailleurs. Et voilà, je vivais quasiment comme les autres.
Et alors,
donc
du coup,
il n'a pas été effrayé, parce que j'étais parfaitement autonome. Et là, mes parents m'ont beaucoup aidée pendant toute mon adolescence, en me laissant...
Cette autonomie, cette autonomie, c'est ce que vous dites.
Oui.
Mais vous avez ce un dixième vous a permis quand même d'aimer votre mari, de découvrir combien il était précieux à vos yeux.
Bien sûr.
Et donc, vous avez eu quatre enfants qui se sont succédés. Ils ont de quel âge à quel âge, alors, aujourd'hui?
Entre 50 et 56.
Oh là là, vous avez été en plus très court.
Rapproché, mais souhaité.
Et comment vous avez fait pour les élever? Vous avez été aidé? Vos parents étaient encore là pour vous aider?
Mes parents venaient deux après-midi par semaine. Et maman m'aidait pour la couture.
Parce que c'est sportif, hein, de se retrouver comme ça avec quatre enfants aussi.
Oui, mais j'étais en très très bonne santé, jamais malade, jamais rien. Donc j'étais... Et c'est ma nature.
On le sent que vous écoutez absolument pas. Et puis, vous êtes en plus dans de la tolérance quand vous parlez de vos amis qui vous ont ignoré en revenant de l'hôpital. C'est une preuve d'une très grande intelligence, Irène.
Oui, mais toute ma vie, j'ai construit des amitiés que j'ai gardées. J'ai des amis depuis plus de 60 ans.
Mais je comprends. On a envie d'être amis avec vous, Irène. Hein?
Je ne sais pas.
Mais c'est vrai, on a envie. En plus, vous avez une voix encore extrêmement jeune. Et vos enfants, alors comment ça se passe avec vos enfants aujourd'hui?
Ben, ça se passe bien, mais ils habitent tous la province. Parce que le travail est comme ça. Donc je me retrouve toute seule.
Pourquoi? Vous habitez très loin? Vous habitez quand vous dites la province, vous habitez Paris, vous, Irène?
Oui, je suis en région parisienne.
Ah, région parisienne, d'accord.
Oui. Mais c'est mon élément également, parce que j'ai une excellente mémoire. Et si j'ose dire, j'ai même la mémoire visuelle des lieux dans lesquels je me suis rendue. Donc je m'y retrouve.
C'est bien, c'est formidable. Hein. Et vous dites que depuis 6 ans aujourd'hui, vous avez dû quand même intégrer une canne.
Une canne blanche, parce que j'ai une DMLA qui s'est ajoutée à ma vision très basse.
Et on n'a pas pu la stopper, ces DMLA?
Non, elle est relativement stoppée, mais je ne sais pas quel va être mon avenir.
Donc là, vous voyez encore moins qu'avant?
Oui, un peu moins. Mais je crois que d'une manière instinctive, chaque jour de ma vie, j'ai essayé de repousser, même d'une manière infime, mes limites. Donc chaque jour, j'ai un tout petit plus qui me donne envie de me lever le lendemain pour avoir un bon programme.
Le petit plus, alors, c'est votre mari est toujours à vos côtés?
Non.
Ah.
Mon mari a quitté le domicile conjugal il y a 4 ans.
Ah, mais tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Irène?
Je pense que depuis un certain nombre d'années, d'abord, il était moins bien physiquement. Et puis, je pense que ma nature combative a dû le fatiguer.
Pourtant,
je pourrais reconnaître
nature,
ce tort dans ma personne.
Mais pourtant, c'est cette nature combative qui... pardon, hein, mais c'est cette nature combative qui vous a permis de tenir toutes ces années, d'élever vos enfants, d'assurer ce foyer. Et alors, tout d'un coup, il vous le reprochait?
Ben, il n'y a pas beaucoup de reproches, même. Mais c'est comme ça.
Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a donné comme raison pour partir?
Aucune. Aucune valable.
Ni à ses enfants, ni à vous-même?
Non. Ah, peut-être à mes enfants, ils ne me l'ont pas dit.
Et un beau jour, il s'est réveillé, il vous a dit « je veux plus vivre avec toi ».
Voilà.
Comment vous avez... C'est quand même très, très, très violent, très dur. Vous avez vécu combien de temps? 50 ans?
Plus de 50 52 ans.
52 ans, oui.
Oui, c'est surprenant, mais je n'ai pas été effondrée.
Parce qu'il y avait des signes annonciateurs déjà de cette séparation.
On était très peu ensemble. Hein.
Alors, toute votre
vie,
qu'il
a voyagé toute sa vie, là, il s'est retranché derrière le travail.
Vous pensiez que depuis le début, enfin pas depuis le début peut-être pas, mais enfin vous pensiez que pendant un certain nombre d'années, il n'était pas
heureux? Oui, oui, oui.
Il était quoi? Il avait une sorte de dépression? Il avait quelque chose qui le...
Non, mais... a besoin de vivre différent du mien.
Et pourtant, qu'est-ce qu'il avait aimé chez vous au départ? C'est justement cette
force, je pense, oui.
Cette vitalité et cette force.
Oui, je pense.
Et c'est ce qu'il a agacé après, peut-être.
Je pense.
Et il a rencontré quelqu'un, vous pensez?
Oh, c'est bien possible.
Et là, aujourd'hui...
Je n'ai pas cherché à savoir.
Il est parti, vous avez tourné la page aussi vite?
En quelque sorte, je me suis dit, bon ben oui, il va falloir me débrouiller pour tout. Alors que je me débrouillais déjà pour pas mal de choses, il a fallu rajouter tout ce qui était administratif.
Matériel. Est-ce que vous n'avez pas de retraite? Vous n'avez rien? Est-ce qu'il vous a...
Non, j'ai la magnifique retraite de 350 euros par mois pour avoir été maman de 4 enfants et avoir travaillé 2 ans avant le premier enfant.
Et donc il vous verse une pension tous les mois?
Oui.
Bon. Donc il vous a pas laissé totalement dans le besoin, mais et vous n'avez plus du tout de contact avec lui aujourd'hui?
Par texto, et puis si on se revoit pour des occasions familiales, les 50 ans respectifs de nos enfants et tout ça, il y a quand même des cérémonies, enfin des occasions de réunions familiales.
Et à cette occasion, comment il se conduit?
Correctement.
Mais une sorte d'indifférence polie?
Oui, oui. Mais moi, de mon côté, je ne l'aiderai pas non plus à être plus expansif.
Vous avez quand même une force de caractère incroyable, Irène. Vous êtes de quel signe astrologique, pardon, de vous poser cette question?
Je suis poisson qui se débrouille avec tous les caractères.
C'est ça, c'est ce que j'ai l'impression. Et évidemment, quand il est parti, vous aviez donc 72 ans. Vous avez 75 quand il est parti?
Oui.
Bon, vous vous êtes dit que plus jamais, vous n'aviez pas envie de rencontrer quelqu'un forcément?
Non, d'ailleurs je ne sais pas qui pourrait s'intéresser à moi.
Bon, vous vous rendez compte? Regardez le caractère que vous avez. On a Laurence qui dit « Le témoignage d'Irène force l'admiration. Quelle leçon de vie. Merci pour ce moment.
» Écoutez, c'est très gentil, mais c'est vrai que j'ai envie de vivre et en plus j'ai 14 petits-enfants.
Oh là là, quelle merveille.
14 ben oui.
petits-enfants.
Oui, mais bon, voilà, la vie est très, très inattendue.
Et vos petits-enfants sont formidables avec vous ?
Oh ben, ils sont gentils, mais ils sont tous loin également. Mais bon, je reçois des textos, puisque maintenant, on ne communique pratiquement plus que comme ça. Mmh. Donc,
vous avez la possibilité, vous avez la possibilité d'aller visiter vos enfants, d'aller les voir ?
Oui, ah oui, alors ça, oui, je voyage.
Et ils vous reçoivent bien ? Ils sont gentils
avec vous ?
Ah
oui. Mais justement, l'autre jour, il y a une auditrice qui a appelé pour parler de l'aide à la SNCF avec ouais. le 3212. Ouais. Et je peux affirmer que depuis plus de 10 ans, je fais appel à cette possibilité qui est formidable.
Ouais. Alors, donc,
et je voulais aussi vous dire que pour les personnes qui ne sont plus en capacité de lire, il existe les bibliothèques sonores qui ne sont pas connues du grand public.
Alors c'est quoi ces bibliothèques sonores ?
Eh bien, ça dépend des mairies. Il y en a dans beaucoup, beaucoup de communes de France. Et il faut demander à la bibliothèque municipale s'il existe en jumelage une bibliothèque sonore. Et là, il suffit d'avoir un certificat médical attestant du fait que l'on n'est plus en capacité de lire et on a droit à faire un choix dans les
livres gratuits, des livres sonores, des audios.
Voilà. Et ces livres sont enregistrés par des bénévoles qui se regroupent dans une association qui s'appelle les donneurs de voix.
Oh, c'est joli, donneurs de voix. Bah, écoutez,
et ça, sur Internet, on trouve ce site qui explique tout ce qu'il faut faire pour lire à haute voix et enregistrer pour les malvoyants.
Bah, écoutez, bravo. Merci, mais vous avez été formidable, Irène. Hein. Formidable, même si on est très attristé quand même de ce que Bernadette est. Elle est furieuse hein, de, que votre mari soit parti comme ça. Elle nous dit que ce n'est pas correct.
Mais c'est peut-être pour moi un élément positif pour les dernières années qui me restent à vivre, parce que j'arrive beaucoup mieux à pouvoir avoir un contact humain, parce que je suis dans le partage d'une manière. J'arrive beaucoup mieux à pouvoir avoir un contact humain, parce que je suis dans le partage d'une manière.
On l'entend.
Voilà, donc j'ai été plutôt enfermée quand j'étais mariée. Bon, j'avais les mamans de l'école, les parents d'élèves
Lycées. Ben oui, vous aviez 4
j'ai
enfants.
J'ai toujours eu une facilité de communiquer avec les personnes.
Eh bien, écoutez, Irène, moi, je vous propose qu'on se reparle à Noël, que vous nous disiez ce que vous allez faire à Noël. Là, ça va être les informations de minuit. Mais je vous propose qu'on se reparle à Noël et que vous nous disiez ce que vous avez prévu de faire à Noël avec votre voix si jeune, si sympathique, ce partage que vous suscitez. Merci de votre témoignage, Irène. Merci infiniment.
Eh bien, merci pour le film.
C'est gentil.
Concernant votre maman, sans quoi je pense que je n'aurais jamais osé vous appeler.
Bon, écoutez, merci à vous, vous êtes trop mignonne. Je vous embrasse, Irène, je vous embrasse.
Moi aussi.
Merci.
Bonsoir.
Tu m'as trop souvent dit que t'aimais mes yeux, que t'aimais nos nuits. Maintenant j'ai l'air d'une folle, mascara décolle. Tu m'y as fait croire, mais t'es qu'un. Tu m'as cassé en deux. J'irais mieux, mais là j'ai trop le seum et je suis bien trop jeune. Moi je nous trouvais trop beau, mais c'est qu'un.
Fait Bonsoir Daniel.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous ce soir. De quoi voulez-vous nous parler? Dites-moi.
Alors hier, je vous entendais parler d'amour, ce fameux mot amour.
Et oui, et j'ai appelé d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à réagir pour nous dire quelles étaient leurs définitions de l'amour.
Ah, voilà, c'est ça.
Et c'est pourquoi vous nous appelez ce soir. Ben alors là, avec grand bonheur, je vous écoute Daniel. Vous avez quel âge déjà?
Alors moi j'ai 73 ans.
73 ans, d'accord. Vous vivez dans quelle région?
Reims, pour tout vous dire.
Reims, d'accord. Alors, c'est quoi votre définition de l'amour? Qu'est-ce qui vous a fait réagir hier soir?
Alors, ce que je veux dire va peut-être choquer, va peut-être surprendre, mais c'est pas le problème. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour.
C'est-à-dire
que... Je ne sais pas ce que c'est.
Vous avez aimé de plein de manières différentes, vous n'avez pas aimé, ça ne vous a pas été donné, ce cadeau.
On m'a trop donné.
Alors, est-ce qu'on
Parce
peut être
que
trop aimé?
La personne qui vous donne beaucoup, beaucoup d'amour veut en retour autant qu'elle donne. Et c'est pas parce qu'on donne moins qu'on n'aime pas pour autant. Et ça, c'est difficile à accepter pour l'autre.
Mais est-ce que c'est ça l'amour, de donner, de donner, de donner, avec la main tendue derrière pour en recevoir à la même hauteur que l'on donne? Moi, je ne crois pas. Ça, c'est de la dépendance. Ça, c'est de la dépendance affective. C'est pas de l'amour.
Ça, c'est votre définition. Mais...
À mon sens, c'est ce que j'ai dit. Ça n'engage que moi.
Mais oui. Moi, quand moi, je suis divorcé depuis 6 ans, et j'expliquais ça à mon ex. Tu m'aimes à ta façon. Moi, je t'aime à ma façon. C'est pas pour ça que je ne t'aime pas, c'est différent. Je donne différemment.
Et comment vous donnez?
C'était prétentieux, mais c'était l'amour fou, quoi. Et la façon qu'elle m'aimait, moi, c'était impossible de lui retourner ce qu'elle souhaitait, quoi.
Donc, elle vous aimait follement, c'est-à-dire qu'elle était passionnée?
Ah, là, c'est très amoureuse, oui. Elle m'a dit, quand on s'est quitté, moi, je sais ce que c'est qu'aimer. Sous-entendu que moi, je ne sais pas.
Oui, alors, par exemple, donnez-nous des exemples de sa manière d'aimer.
Alors, sa manière d'être aimée, c'est que elle avait besoin toujours d'être encouragée, d'être félicitée, de toujours besoin de, en quelque part, de reconnaissance. Et moi, ça, je sais pas trop faire.
Vous voyez, c'est drôle parce que je ne vous ai pas demandé ce qu'elle attendait dans la manière d'être aimée. Je vous ai demandé quelle était sa manière de vous aimer. Qu'est-ce qui était surdimensionné? Donnez-nous des exemples dans sa manière de vous aimer, dans l'aspect surdimensionné de sa manière d'être avec vous.
Il fallait, en fait, que le mot va être fort, que je l'admire, que je la vénère. Je veux dire, elle avait grand besoin d'être...
valorisée.
Oui.
Reconnue.
C'est ça. Et il n'y avait pas besoin, je veux dire, elle était tellement éblouissante, éclatante, qu'elle n'avait pas besoin, quoi. Et moi, ça, je ne savais pas donner. Je lui disais, mais ce que tu me demandes, je ne sais pas faire. Et je ne sais pas tout. Et je ne sais toujours pas faire.
Mais vous savez, si je peux vous rassurer, même si vous l'aviez valorisée, reconnue, accueillie, peut-être que ça n'aurait pas suffi. Parce que ce qu'on entend dans sa manière de vous aimer... même si c'est peut-être, et vous allez me dire dans un instant si ça vous convenait ou non, ce qu'on entend, c'est sa blessure narcissique. C'était peut-être un puissant fond, ce besoin de reconnaissance, qui n'est pas lié à vous, Daniel, qui est lié à son passé.
Ça, c'est certain. Mais ça je lui ai déjà dit. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé. Et ça, j'en avais déjà parlé de tout ça. Mais je lui dis, de toute façon, la barre sera toujours plus haute. Et je suis désolé, mais je ne sais pas faire ça. Mais par contre, je prenais grand soin d'elle. Mais...
vous étiez attentif.
Très attentif. Trop attentif.
Pourquoi trop?
Ah, le recul me fait dire trop. C'est trop. C'était. Ah, je vais vous donner un exemple. Imaginons que je lui découvre quelque chose sur le corps. Je lui disais. Et elle ne bougeait pas. Elle attendait que ce soit moi qui prenne un rendez-vous médical. Et j'ai fait ça longtemps.
Vous voulez dire que c'était trop de pression pour vous?
Non, du tout. Parce que cette femme-là, je lui dois énormément.
Vous êtes resté combien de temps ensemble?
42 ans.
42 ans d'histoire, et vous n'avez pas réussi à transformer pour éviter que ça ne se termine?
Alors, non, c'était pas possible, c'était pas... attention, je suis pas non plus le meilleur des maris non plus, attention. Hein. Je suis comme tout le monde, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Hein. Et je veux dire... Après, il y avait des copines qui se sont mêlées. Alors ça, j'ai 12 auditrices. Hein. Mesdames, si vous avez un problème, n'en discutez pas avec des personnes. Allez voir des professionnels. Oui. Allez voir des
professionnels. Absolument, je vous suis sur ce sujet. Parce que les amis qui se mêlent des couples, et les potes hein, aussi, du côté des hommes qui se mêlent des couples, même si c'est moins courant chez les hommes... C'est jamais une bonne chose.
C'est une catastrophe.
Oui.
Parce que vous allez parler que de votre vécu, et puis vous ne dites pas tout. Mais non, il ne faut pas faire ça.
Il y a les projections. Les projections et les envies cachées aussi. Donc, il faut faire très attention. Mais moi, ce que j'entends dans votre voix, Daniel, c'est que vous l'aimez toujours, cette femme.
Elle m'est pas indifférente, mais c'est fini. Mais elle m'est pas indifférente, ça c'est certain. Elle m'a jamais été indifférente, contrairement à ce qu'elle pensait.
C'est vous qui l'avez quittée?
Non, c'est elle. C'est oui. elle qui m'a quitté. Mais je suis parti, hein, de toute façon.
Elle ne vous a pas laissé le choix.
Ah non, du tout, du tout. Du tout, du tout.
Mais qu'est-ce qu'elle vous reprochait de ne pas avoir... Alors, les attentions, vous dites, j'étais très attentif. Voilà, très attentif à sa santé, visiblement. Mais est-ce qu'il y avait des attentions que les femmes attendent souvent? C'est-à-dire le bouquet de fleurs, le petit cadeau, la surprise, des petits mots. Vous savez, c'est Vénus et Mars, hein, donc...
Oui, mais elle n'avait jamais besoin de rien.
Oui, mais ça, ça peut être une posture. Hein. Je n'ai besoin de rien. Bon, ça, c'est un peu comme quand on dit moi, la Saint-Valentin, je ne la fête pas, c'est une fête commerciale, et puis il n'y a pas la rose le jour de la Saint-Valentin. Finalement, on va en entendre parler jusqu'à la fin de ses jours.
C'est ça. On est d'accord. Non, non, mais on sortait beaucoup, on allait au restaurant, on voyageait énormément. Je veux dire, on a fait énormément. Notre vie, on l'a construit vraiment ensemble, de A à Z. Je veux dire, on est parti de rien pour arriver avec un résultat fantastique. Je veux dire, mais c'est pour ça, l'amour, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi.
En tout cas, vous l'avez éprouvé.
Oui, mais après, ça n'a pas suffi.
Mais l'amour ne suffit pas de toute façon, Daniel. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un des plus grands deuils à faire dans la vie. L'amour ne suffit pas. On peut s'aimer, ne pas se convenir. Ce qui est important, c'est de se convenir.
Oui, non, c'est sûr. Mais bon, après, il faut accepter. Bon, accepter la différence dans ses positions, dans ses choix, faut accepter ça à l'autre aussi. Et puis, je veux dire, faut être constructif aussi. Il faut pas non plus rester.
Ce qui fait la différence, c'est la communication.
Mais
après,
oui, voilà.
Après 42 ans de construction de vie, j'imagine que vous avez eu des enfants avec elle.
Deux fils.
Voilà. Vous avez des petits enfants?
Deux petites filles, adorables.
Voilà, donc le foyer est constitué, vous avez construit votre vie, vous avez tout construit, comme vous l'avez dit, je vous cite, hein, de A à Z. Comment on communique? On communique, et la communication, c'est la communion. La communion, c'est faire comme un, comme je le dis souvent sur l'antenne. C'est qu'il y a quelque part, vous n'avez pas fait un à un endroit, si vous n'arrivez pas à communiquer à ce moment-là, après 42 ans d'histoire. Je ne dis pas qu'il faut rester coûte que coûte, mais s'il n'y a pas de violence, de maltraitance, de manque de respect, d'humiliation, alors pourquoi ne pas persévérer dans la construction? C'est peut-être une nouvelle phase de vie qui s'amorçait pour vous.
Moi, je suis parti de d'où j'étais, et là où je suis heureux.
Vous êtes heureux aujourd'hui?
Oui, je suis heureux, oui.
Vous avez refait votre vie?
Non. Non, non.
Et vous êtes heureux avec vous-même?
En fait, c'est presque ça, mais je sors aussi beaucoup. Je vais toujours au restaurant, je vais danser, je vis. Moi, les voyages en moi, mais sinon le reste, pareil. Et...
Elle ne vous manque pas?
Ah, elle m'a manqué. Écoutez, 42 ans de vie, ça ne s'efface pas d'un jour. C'est pas possible. Je sais qu'elle est malade. Et je sais que ça m'ennuie énormément. Que je ne suis pas là pour elle. Et je lui ai dit, redit.
Vous avez proposé votre aide?
Oui, bien sûr, oui.
Et elle n'en veut pas?
Non. Elle a ses copines. Ben, c'est tout, si vous voulez. Moi, au bout d'un moment, quand elle était malade, elle est tombée malade il y a environ 3 ans. Et j'ai dit, écoute, je redescends et puis je vais avec toi. Pour moi, c'est ma place. C'était ma place. Parce que ah, je vais vous dire. Moi, je suis non-voyant.
Oui.
Cette personne-là m'a connu non-voyant. Tout ce que nous avons fait dans ma vie, c'est avec elle. Et tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'était avec moi. L'un sans l'autre, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que je vous dis, et je lui ai déjà dit, que je lui dois énormément à cette personne. Énormément. Ce que je suis, en grande partie, c'est grâce à elle.
Mais vous avez grandi ensemble aussi, vous avez traversé la vie ensemble.
Oui, mais si vous voulez...
C'est logique, d'une certaine manière, quand on se trouve.
Oui, mais si vous voulez, mon ex-femme, elle est, entre guillemets, elle est voyante, elle est, entre guillemets, normale.
Oui.
On avait une voiture, c'était elle qui conduisait.
Oui.
Bon, moi, j'avais mon handicap. Mon handicap, je compensais par d'autres choses, mais j'avais quand même mon handicap. Et malgré ça, on a fait énormément de choses. C'est pour ça que je vous dis, et même encore aujourd'hui, hein, je lui dois ce que je suis. En grande partie, c'est grâce à elle.
Donc le seul reproche qu'elle vous a fait, c'est de ne pas la reconnaître à sa juste valeur, c'est ça?
C'est ça, et puis bon, après, il y avait des distorsions de maison, moi je ne suis pas attaché à ce genre de choses. Voilà, je voulais partir de là-bas, je ne voulais pas aller rester, puis après, voilà, quoi, l'engrenage. Quoi.
Et vous n'avez pas essayé d'aller voir un thérapeute de couple?
Alors, figurez-vous qu'il y a des années en arrière, mais je vous parle de ça, il y a 35 ans, elle me l'avait proposé. Et j'avais dit non. Et quand ça partait en sucette, je lui ai proposé. Et elle a dit non. Comme quoi. Et depuis que je suis séparé, moi, je vais voir des psychologues.
Oui, ça vous aide à avancer, à vous comprendre
énormément.
Davantage.
Énormément. Je ne raconte ma vie à personne. Personne ne sait rien de ma vie. Le minimum. Mais ma psychologue, c'est toute ma vie.
Oui, c'est
je lui cache rien. Maintenant.
Ah oui, c'est un lieu sécurisé, hein. Pour c'est un lieu sûr.
Elle est sympa. Il y a le secret professionnel. Voilà. Moi, je vais pas dire à un copain ou une nana dehors ce qui m'est arrivé, quoi. Je veux dire, je ne dis rien de ma vie. Voilà. T'as été marié, oui. 42 ans, oui. Voilà. Ça s'arrête là.
Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, avec ce que vous avez appris de vous ces dernières années, que vous referiez autrement, Daniel, avec votre ex-épouse?
Ah oui, ça c'est certain.
Comme quoi, certain. Par exemple?
Quoi, par exemple? Alors, ce que je veux vous dire va vous surprendre et vous allez trouver un petit peu. Alors, nous habitions dans un endroit paumé. C'est vraiment paumé. Donc, elle avait besoin d'activité. Donc, elle a fait de l'anglais, de la peinture, pas de problème. Et après, elle me disait, j'ai envie de faire d'autres choses. Alors là, je lui ai dit, écoute, non. Alors, c'est pas parce que je voulais pas qu'elle fasse d'autres choses. C'est que moi, après, je me retrouvais seul toute la journée. Quoi. Et là où j'étais, il y avait... Aucun nassos pour faire quoi que ce soit. Qu'aujourd'hui, je suis là, j'ai plein d'assos autour de moi, je fais plein de choses à travers les assos, hors des assos, j'ai fait des amis, je sors avec mes amis, voilà.
Et elle ne voulait pas bouger de cet endroit isolé?
Là, madame, vous mettez le doigt qui fait mal. Elle m'a dit, avant qu'on se sépare, je sais que t'as... Alors bon, physiquement, je ne fais pas du tout mon âge. Voilà, il y a la chronologie et la physiologie qui n'ont rien à voir. Chez moi, ça n'a rien à voir. Elle me dit, je sais que tu approches 70 ans. Et je sais que... Il faudrait peut-être qu'on fasse autre chose, quoi. Et ça, mais ça s'est arrêté là, quoi. C'est que des mots, quoi. Parce que la maison que nous avions, c'était énorme. Énorme. Un entretien de ouf. Et j'avais beau lui dire, beau lui dire, beau lui dire, et ça rentrait pas. Et quand je suis parti, elle m'a téléphoné quelques mois après, en disant, elle gueulait, hein. C'est clair. Ouais, tu te rends compte, elle voulait l'objet, c'est trop dur. Bah, il y a combien d'années que je te le dis? Combien d'années? C'est comme ça, ça marchait comme ça.
Quel âge elle avait, cette femme?
À 5 ans de moins.
5 ans de moins, oui, vous êtes à peu près dans les mêmes...
Dans les mêmes
âges, voilà, dans la même tranche d'âge. Oui. Donc...
Mais... Cette maison-là, c'était un tombeau. Pour moi, c'était un tombeau.
Une prison dorée?
Oui, c'est tout à fait ça.
Et vous n'avez pas réussi à vous faire entendre?
Ah non, non, mais pas moyen. Et alors... Nous sommes partis de là où je suis en 2002. On a fait construire là-bas. Bref, on est dans cette maison. On a travaillé beaucoup, on a fait des choses, etc., etc. Et en 2008-2009, je voulais déjà partir. Et elle m'a dit... Parce que j'ai bien compris, écoute, on vient d'arriver, on vient de finir tous les travaux, on a la piscine maintenant, etc., etc. J'aimerais bien en profiter. Pas de problème. Tout à fait d'accord. Mais quelques années après, moi, j'ai remis le couvert. Et là, c'était froid, là, c'était même plus la peine.
Oui, c'était trop tard.
Et cette maison, effectivement, c'était... C'est moi qui ai voulu y aller. Comme tout bon retraité, le soleil, mais c'est une erreur fondamentale. Les vacances, oui, y vivre, c'est autre chose. Et donc, voilà.
Donc vous vous êtes éloigné au fil du temps. C'est ça, en fait, qui s'est passé entre vous?
C'est ça. Et puis ses copines.
Qui ont pris de plus en plus d'espace? De plus en plus de place.
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Je vous dis même que on était en plein divorce, il y en a une qui téléphone dans la voiture, sa mère elle s'est gravée dans la tête. La nana le téléphone, elle ne dit même pas bonjour. Et j'ai dit, attendez, madame, vous parlez à qui là? Vous, minimum, c'est de dire bonjour, quoi. Et je me suis fait engueuler derrière, quoi, parce que j'ai agressé sa copine.
Oui. Et vous croyez aujourd'hui de nouveau à l'amour, Daniel, ou comment vous vivez aujourd'hui comme un célibataire endurci qui va le rester jusqu'à la fin de ses jours? Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui, Daniel?
Alors, ce que je me dis, c'est que... écoute, bonhomme, t'as 73 ans, tu pètes le feu, t'as la chance de ne pas être malade, déjà, ça, c'est énorme.
Oui.
Tu fais... pratiquement pas tout, mais tu fais beaucoup de choses. Tu vas danser au théâtre, tu fais du sport, tu fais du vélo, tu fais de la marche avec des amis. Voilà, je vis normalement. Voilà, quoi, j'ai mes enfants. Bon, mes enfants, ils vivent leur vie, donc comme les gens avant, hein, ils ont des enfants.
Mais vous les voyez régulièrement, vous êtes en lien.
Oui, oui, sauf un plus jeune, il y a 3 ans, qui me fait la gueule, je sais pas pourquoi. Mais bon, ça lui passera. Si ça lui passera, ben c'est tout. Hein. Je sais pas. Voilà. L'aîné, non, il n'y a pas de problème. Mais lui, bon, il travaille beaucoup. Petite fille, bon, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Et... Non, non, des fois, je me dis, j'ai envie de retrouver quelqu'un. Mais chacun chez soi, de toute façon. Moi, je suis là. Je suis trop bien où je suis. Mais moi, je veux quelqu'un de vivant. Je veux quelqu'un qui... quelqu'un qui a envie de vivre.
Oui, bah oui, tant qu'à faire, c'est mieux.
Eh oui, hein,
on rajoute de la vie, oui, on va pas en enlever.
Eh oui, voilà, quoi. Oui. Mais voilà, quoi, c'est... Non, non, cette personne, ça a été, c'est et ça restera la femme de ma vie.
Elle le sait?
Oui, je lui ai dit, oui.
Elle a entendu?
Non. Elle a jamais cru à tout ce que je lui disais. Oui, c'est le comble.
Oui.
Jamais, 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 jamais.
Parce que le problème est ailleurs, en fait. Hein.
Voyez-vous, là, il y a quelques jours, alors je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis réveillé en pleine nuit, j'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un message. Un message agressif, je le reconnais, en lui demandant ce qu'il en était de sa santé. Elle m'a répondu que...
Ça ne nous regardait pas.
Non. En gros, c'est ça.
Oui.
Et à la fin, elle me dit « T'attends peut-être la réversion. »
Ah, oui. C'est un peu violent. Oui.
Oh, non, c'est ridicule, madame. C'est ridicule. Oui. Parce qu'elle sait très bien, très très bien, que j'en ai vraiment pas du tout, du tout, du tout besoin. Donc c'est ridicule, et donc et je lui ai dit, je lui ai répondu, tu es malade, mais quoi qu'il en soit, qu'il en aurait été, jamais, jamais je t'aurais quitté. Jamais, et je vous le jure, que jamais, jamais, quoi qu'il y soit arrivé, jamais je l'aurais quitté parce qu'elle était malade. Si elle avait une maladie neurologique, vraiment, vraiment, j'aurais été jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, s'il fallait les mettre dans un endroit spécialisé. Mais sinon, jamais.
Mais de toute façon, même là, c'est pas vous qui l'avez quittée, c'est elle qui vous a quitté.
Ah oui, oui, c'est ce qui me met, quelque part, ça me met à l'aise. Vous voyez, quelque part, ça me déculpabilise.
Oui. En tout cas, vous avez retrouvé, vous vous êtes recréé une nouvelle vie.
Ah oui, oui, mais je n'avais pas le choix. Hein. C'était ça ou je ne sais pas quoi. Hein. Vous savez, dans ma vie, j'ai rebondi quand même le jour de mon accident. Et puis là, hein, je veux dire, j'ai rebondi. Ça fait un peu plus de 6 ans que je suis divorcé. J'ai bien mis 3 ans vraiment à m'en remettre. Et puis depuis 6 ans, je vais voir ma psy. Et puis c'est le bonheur, quoi.
Écoutez, tant mieux, parce que ça veut dire aussi qu'il y a une vie après la rupture, après le divorce, après une vie pleine et entière pendant plus de 40 ans. C'est plutôt ça. Un joli message d'espoir que vous nous livrez ce soir, Daniel.
Ah, je ne sais pas, quoi, mais beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Pour en arriver là, c'est dommage. J'ai une part de responsabilité. Hein. De toute façon, il ne faut pas croire. Hein. Je veux dire, c'est pas noir et blanc. Hein.
C'est certain, surtout dans le couple. Hein. C'est l'endroit où tout est exacerbé. On est à 100% responsable de sa partie à soi. Absolument. 50% responsable de la partie avec l'autre. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir contacté ce soir sur l'antenne d'Europe 1 pour nous parler de votre grand amour et puis de l'amour à venir.
Eh oui.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.
Bonne soirée à tous.
Merci. Au revoir.
Les témoignages de la Libre Antenne sont disponibles sur le site et l'application Europe 1. Et si vous aussi vous souhaitez vous confier, apporter un témoignage, n'hésitez pas, la Libre Antenne sera de retour ce soir en direct de 22h30 à 1h. Vous pourrez vous confier auprès de Roland Pérez. Alors pour nous laisser un petit message afin qu'on puisse vous rappeler, eh bien vous le faites au 01 80 20 39 21 pour passer en direct dans la Libre Antenne ce soir ou un autre soir d'ailleurs. 01 80 20 39 21. Dans un instant, c'est avec Thomas Hill que nous avons rendez-vous pour une nouvelle diffusion de Culture Média. Ce lundi, il a reçu Philippe Candeloro et Nelson Montfort pour Les Apprentis Champions au ski, diffusé sur W9. Et puis le comédien Francis Huster est venu nous parler de la pièce En Thérapie. Mais avant, la musique avec une artiste qui a été mannequin, actrice, qui est surtout connue pour être chanteuse. Elle est canadienne. Elle a écrit sa première chanson à l'âge de
8 ans. À 18 ans, elle s'offre une guitare. Ses revenus d'ailleurs d'actrice et de mannequin vont payer ses premières bandes démo. Et elle connaîtra son heure de gloire en 1989 avec Black Velvet, tube mondial. Voici Alana Miles. Black Velvet sur Europe 1, un hommage à Elvis Presley, hein, le seul et unique tube de la chanteuse canadienne Alana Miles, qui était quand même numéro 1 aux États-Unis en 1990. Et malgré son talent, eh bien, les albums suivants ne vont pas connaître le même succès. Il y a quand même Rocking Horse qui est sorti en 1993 et qui recevra tout de même une nomination aux Grammy Awards. Allez, la suite du programme, c'est Culture Média, c'est maintenant. On retrouve Thomas Hill en nouvelle diffusion. C'était donc ce lundi sur Europe 1 de 10h à 11h30. Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Welcome to Culture Média. It is a pleasure to be with you. On est parti pour une semaine absolument magnifique. We are parti pour une wonderful semaine. Hello to my friend Alissa Dallier et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Hello guys et bonjour Nelson Montfort.
Vous êtes très en forme. Thomas.
Toujours le
bonjour
lundi
Alissa,
matin.
Bonjour Alissa, bonjour Thomas.
Et bonjour
Nelson.
Philippe Cordeloro.
Can you repeat please? Bonjour à tous et à toutes.
Vous faites semblant, mais vous avez un très bon anglais. J'ai vu une interview de vous, Philippe Candeloro. Vous êtes parfaitement bilingue.
Moi, je me débrouille, mais ayant passé 19 ans avec ce monsieur-là à côté
évidemment,
de moi, forcément, monsieur le professeur.
Voilà. En formation continue. Merci d'être là, en tout cas, tous les deux ce matin. On va parler de votre nouvelle émission, l'émission à laquelle vous participez, Les Apprentis Champions de Ski. C'est sur W9. Et puis, on reviendra ensemble sur quelques souvenirs aussi tout à l'heure. Merci d'être là. Vous êtes les premières invité d'une semaine qui s'annonce absolument exceptionnelle, avec les visites par exemple de Lara Fabian, d'Alessandra Sublet ou tiens Souria Bonali, ça vous dit quelque chose?
Yes,
elle sera
la petite sœur de carrière, je l'appelle.
Voilà, et qui est également dans votre programme aussi, ouais. Des apprentis champions. Et puis vendredi on fêtera donc ma 500e émission de Culture Média, avec là un festival d'invités et puis un public composé d'auditeurs fidèles.
Oh, ça va être bien.
Bon anniversaire Thomas, vous le méritez.
C'est adorable, merci beaucoup Nelson. Et puis alors il y aura beaucoup de monde évidemment, et ceux qui ont été le plus rapides à s'inscrire, je le dis, pour ceux qui veulent encore s'inscrire, c'est trop tard.
Ouais, c'est
en fait c'est trop tard depuis le premier jour.
Dès qu'on va attendre la millième,
et puis on prendra un studio plus grand.
Stade de France.
On envisage le Stade de France.
Après,
évidemment, bien
ça
sûr.
Ça a été complet en quelques heures, hein. Faut bien l'avouer.
En quelques minutes. On nous compare à Beyoncé désormais. Bien sûr. Ça va être génial.
On va partir à Wembley.
Vous êtes très en forme, ça fait plaisir.
Bon, on est sur un public de 60 personnes.
Mais 60 rapides.
On va pas s'emballer non plus. Bon, ça va être génial en tout cas cette émission vendredi, vraiment. Soyez là avec tous ces invités qui sont conviés par qui dans cette émission, on se le demande.
Bah, la Queen.
La Queen, la meilleure, celle qui fête son anniversaire aujourd'hui, la formidable Linda Ronstadt.
Happy birthday to you. Happy birthday.
Joyeux anniversaire Linda, et merci pour toute l'énergie que tu mets dans cette émission à essayer d'avoir les meilleurs invités chaque matin.
Elle est à la pêche, on va la recruter pour les spectacles de patinage.
C'est le plus gros carnet d'adresses de France.
Elle a tous les numéros de téléphone
c'est tellement pratique.
De tout le monde, c'est incroyable.
Et alors en l'occurrence Nelson Montfort,
elle n'a pas le mien.
Elle vous a pas appelé directement?
Je sais pas, elle doit
avoir peur à mon avis.
Et puis tout à l'heure, c'est le grand Francis Huster qui nous rejoindra. Vous l'avez vu, il est déjà arrivé là. Vous avez déjà commencé à parler de foot avec
lui. On a parlé de la finale chaotique d'hier soir au Sénégal. Oui.
Et c'est un grand fan de foot, Francis Huster. Et il n'en revient pas de cette finale. On en parlera peut-être avec lui tout à l'heure. Mais on parlera surtout de sa pièce En Thérapie, adaptation de la série israélienne. Merci d'être avec nous chaque matin sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à
11h30. 10h-11h30 sur Europe 1.
Culture Média.
Thomas Hill.
Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences marquantes du week-end. Ah, déjà combien de personnes ont suivi la finale de la CAN hier soir sur M6?
Franchement, je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux. 3 266 000 supporters
c'est fort, quand même.
Ont assisté à la victoire du Sénégal face au Maroc. Oui, mais en général, le foot,
ça s'est fini à 23h et quelques.
Oui, c'est vrai que c'était
fini tard. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai vu des scores incroyables sur les jeunes, notamment.
Mmh. Oui. Et puis, il y a eu des pointes, évidemment. Ça, c'est la globalité pour la soirée. Et puis, bon, c'est pas évident de contrer les films du dimanche soir. Il y avait Bac Nord sur France 2, 2 millions de téléspectateurs. Et surtout, Maison de Retraite sur TF1, 4 millions de téléspectateurs. Ouais. Et puis, la série proposée par France 3, Meurtre en eau trouble, a aussi très bien marché, 2 600 000. Sinon, un petit mot de ce qui s'est passé samedi. La Star Academy était 3e des primes, mais c'était très serré. 2 800 000 fidèles. Ça s'est pas joué à grand chose. Enquête parallèle sur France 3, 3 millions. Et The Floor, 2 millions 9. Un mouchoir de poche, comme on dit.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis on ouvre ce premier journal des médias de la semaine avec la reprise des auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public.
En attendant début février, les auditions de Léa Salamé et de Laurent Delahousse, notamment, c'est la directrice des divertissements Alexandra Redamiel et le responsable des sports Laurent-Éric Lelay qui seront entendus cette semaine. Et avant cette reprise, le rapporteur UDR Charles Alonque qui dirige cette commission a accordé ce week-end un entretien au magazine Le Point. Charles Alonque, souvent décrié, qui a eu quelques passes d'armes larmes depuis le début de ses travaux, notamment avec l'animateur Nagui, assure qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il fait son devoir. On ne me censurera pas, on ne me baïonnera pas, lance-t-il, alors qu'il attend toujours